Et voilà, bienvenue à nos invités sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, donc, on reçoit Yannick Becker, secrétaire départemental de la Confédération paysanne et porte-parole régionale, avec Manfred Thiollier, secrétaire sur le 04 aussi de la Confédération paysanne. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors on va parler aujourd'hui d'un sujet du salon à la ferme, c'est ça, hein, qui est mis en place. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et depuis quand ça existe.
En fait, ça a été mis en place à la suite quand le Salon international de l'agriculture à Versailles, là, au parc d'exposition de Versailles, a été annulé pendant la période de confinement. Et du coup, on s'est dit, bon, on va quand même pas abandonner ça. Et puis, on a rebondi sur quelque chose qui était peut-être, à notre sens, plus riche, c'est-à-dire d'inviter dans chaque département les citoyens à venir nous rencontrer sur les fermes. Voilà. Et puis, du coup, après, on l'a maintenu parce qu'en parallèle de notre présence au Salon de l'agriculture à Paris.
Et donc, ça consiste en quoi? Alors, il y a des animations
À la base, on ouvre. L'idée, c'était d'ouvrir les fermes, donc d'inviter les gens sur les fermes. Après, on a un peu des thèmes annuels qui sont lancés au niveau national pour essayer d'harmoniser un peu le focus sur. Mais après, chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut. Donc, ça peut être juste des visites de fermes. Des fois, il y avait des accompagnements à la garde, par exemple, les éleveurs amènent leur troupeau en pâturage. Sinon, après, ça peut être des visites dégustation si on fait de la transformation sur la ferme. Et puis, après, on fait aussi quelques focus un peu plus politiques avec des invitations, soit d'élus locaux, soit de responsables, des discussions, des tables rondes sur des sujets précis. Et cette année, du coup, on n'a pas énormément de fermes qui ouvrent parce que c'était un peu plus délicat vis-à-vis de la météo. Après, il faut dire que la période n'est pas vraiment opportune pour ouvrir les fermes parce que des fois, il n'y a pas trop d'activité ou il y en a trop pour les élevages ovins. C'est la période d'annielage. Donc, on a quelques fermes qui s'ouvrent. Mais après, on a aussi un peu inversé le paradigme et puis on fait venir... On amène un peu la cour de ferme dans des salles de spectacle, puisqu'on propose trois spectacles, mais sur quatre représentations, qui amènent des sujets et des points de vue différents sur l'agriculture.
Oui, alors cette année-là, alors c'est vrai que le salon à la ferme, ça a lieu de mi-février jusqu'au 4 mars. Donc c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée, hein, pour les paysans, mais il y aura quand même des journées portes ouvertes, notamment à Seine-les-Alpes, donc à la ferme des Pélissonnes. Voilà, donc c'est un élevage bovin avec des vaches Black Angus et aussi un élevage porcin, donc avec la vente à la ferme. Puis bon, c'est un GAEC où il y a quand même 5 personnes qui travaillent. Voilà, donc ça, ce sera à ce moment-là. Et alors, au niveau des spectacles, il y a donc 4 soirées qui vont être organisées. La première aura lieu à Josier le lundi 23 février. À 18h15, dans la salle des fêtes. On fait ça en concert avec l'association La Libri, qui est sur Josier, et qui nous a permis d'avoir une salle gratuitement. Et le spectacle, c'est Morceaux de vie, qu'on retrouvera aussi au Mai, le dimanche 1er mars. Morceaux de vie, c'est des envies d'ailleurs, quand on est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses ancêtres. C'est un petit peu ça le sujet. Et depuis des siècles, paysans de père en fils... Et Jérôme Rousselet, qui est donc le comédien qui va, en fin de soirée aussi, faire un débat autour de ces sujets. C'est un fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, dans la Mayenne. Donc voilà. Et donc ça, ce sera le premier spectacle, donc à Josier. Ensuite, à Seine-les-Alpes, le 25, c'est un mercredi soir, là, le 25 février, avec un autre spectacle un petit peu plus court qui s'appelle Ral Pick-up, qu'on va faire à l'Alternateur aussi, qui est le café associatif de Seine-les-Alpes, qui est vraiment super, avec qui on travaille souvent. Et voilà, donc ça finira aussi avec un repas partagé. Enfin, voilà. Et Ral Pick-up, c'est très sympa parce que c'est le matériel agricole qui est utilisé dans les fermes, qui raconte l'évolution, en fait, finalement, avec beaucoup d'humour et de causticité, qui raconte un petit peu le développement de l'agriculture et puis à des choses qui sont quelquefois un petit peu trop, au niveau technique, peu compliquées, quoi. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, on fait une soirée à Digne-les-Bains avec un troisième sujet, toujours par le même comédien, qui est le progrès progresse. Et donc là, il raconte l'histoire à partir d'un paysan en 2060. Donc il invente un petit peu ce qui va se passer plus tard, et voilà. Donc toute cette évolution-là. Et ce sera toujours suivi d'un débat. Voilà, je pense que ça va être vraiment très très sympa. Donc c'est sympa de nous recevoir pour qu'on puisse en parler.
Et oui, et puis qu'on puisse venir aussi ouais. éventuellement réserver ses places. Là, ce sera à Digne, oui,
alors,
dans la salle
Digne,
de l'Ermitage.
Alors à Digne, ce sera à l'Ermitage.
C'est assez grand, donc ça devrait le faire. Mais sinon, pour les autres, il vaut peut-être mieux réserver. Comment ça se passe?
Bah, au moins, c'est à l'ancien cinéma, donc il y a aussi pas mal de place.
Il y a de la place, oui. Mm-hmm. Il y aura de la place.
Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, là, en fait, on propose, et le comédien propose de changer de point de vue. Et ça permet d'avoir de nouvelles perspectives. C'est très bien, quoi, que parfois, si on a toujours le même point de vue, il y a des choses qui sont cachées, le fameux arbre qui cache la forêt. Mmh. Et là, ça fait complètement écho aux politiques agricoles qui sont menées depuis plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes ornières, on va dire, maintenant, à force de les emprunter. Et du coup, un peu comme le médecin de Molière, encore une saignée, et le malade s'en portera que mieux. Sauf que depuis, on a perdu, depuis les années 70, on a perdu plus d'un million de paysans. On en est à moins de 400 000. Et voilà, si on continue sur ce chemin-là, on va se retrouver avec 50 000 chefs d'entreprise, de grosses entreprises, et on n'aura plus vraiment la vivacité de l'ensemble du monde agricole. Et c'est des choses qui sont importantes pour l'ensemble de la société. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi les élus, ou les futurs élus, les candidats municipaux et autres, à venir assister à ces spectacles, mais aussi participer aux débats qui auront lieu à la sortie des spectacles.
Et c'est toujours enrichissant. Donc ça, c'est pour le mois de février.
Février jusqu'au 1er mars.
Jusqu'au 1er mars. Pour retrouver ces infos, évidemment, nous, on mettra en lien l'affiche, mais vous faites une bonne publicité.
On fait ça à la mesure de nos moyens, on va dire. C'est-à-dire, on a des listes mail de nos adhérents, mais aussi on a une liste de plus en plus étoffée de citoyens qui veulent bien nous soutenir et en échange être tenus informés de nos activités. Donc on envoie des mails régulièrement. Et puis on fait des publications sur Facebook. Où on a pris plus de 3 000 followers en plus depuis le début de la crise, depuis 3 mois, là, c'est assez impressionnant. Donc on fera des publications régulières pour tenir informé. Après, l'affichage, on sait que c'est un peu lourd en logistique, donc on en fera sur les marchés et puis plus localement.
Oui, c'est ce qu'on fait. On fait en général des formats à 5, tout simplement. Et on recommande aux personnes qui sont sur les marchés notamment donc de prendre en photo plutôt que d'embarquer le flyer et le jeter, ou en tous les cas, même s'ils le donnent à d'autres personnes, etc., ça finit toujours en poubelle. Donc on en fait de moins en moins, mais ça marche bien comme ça. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que pendant les problèmes avec la DNC et l'abattage total, on s'est aperçu sur les deux manifs qu'on a fait à Sisteron et à Digne que majoritairement, les gens qui passaient en voiture s'arrêter, plutôt sympathique, et au moins 2 personnes sur 3 étaient solidaires. Donc la société civile est beaucoup plus solidaire des valeurs de la Confédération paysanne, celle qu'on prône depuis très longtemps. Et ça fait chaud au cœur. Et du coup, ça a permis à des personnes qui, au départ, seraient peut-être pas forcément motivées, de justement se mettre en marche pour, j'aime pas trop l'expression, pour effectivement démarrer un groupe collectif autour donc des amis de la Confédération paysanne. Et donc il y a des personnes qui sont très très motivées, donc quelqu'un c'est sur Valère notamment, un ancien militant de la CGT, je crois, à l'époque chez Orange, et qui vraiment a donné de l'énergie pour qu'on puisse, avec le groupe local de Sisteron, qui aussi est très très motivé, démarrer ce groupe-là, qui jusque-là, on avait des soutiens de la conf, les uns, on se passait un petit peu des informations. On en avait, bien sûr, quelques-uns, je crois qu'on était à 80 à peu près. Mais là, ça va prendre une autre dimension, à mon avis, et on y travaille vraiment très fortement pour avoir ce soutien de la société civile dont on a tant besoin. Voilà.
Donc c'est un nouveau collectif, c'est quoi?
Oui, ça va être un collectif qui va vraiment se former de manière à pouvoir à la fois effectivement récupérer un peu de financement pour la Confédération Paysanne 04, mais aussi nous aider dans la réalisation des événements. Quand on fait la fête de l'agriculture paysanne en octobre, on est débordé de travail et on a les paysans qui sont pris aussi à ce moment-là par tout un tas de choses. On a du mal. Et là, ce collectif va pouvoir venir nous aider. Et suite à la DNC, suite au Mercosur, suite à la loi du plomb, les gens réagissent. Et donc ce collectif va pouvoir vraiment se motiver très fortement pour nous aider. Et ça, on en a besoin.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ce collectif?
En fait, à la base, l'association des Amis de la Conf, c'est une association qui est constituée au niveau national depuis un certain temps. Je n'ai pas l'historique, mais ça fait quand même pas mal de temps que des citoyens de la société civile ont décidé de s'organiser et de s'engager aux côtés des paysans et des paysannes de la Confédération Paysanne pour soutenir le même projet. Parce qu'effectivement, on est de moins en moins nombreux, nous, les professionnels. Et que, voilà, on n'a pas autant d'adhérents que des syndicats de salariés, par exemple, même si eux aussi ont tendance à baisser. Et du coup, après, voilà, ça peut se décliner dans les départements. Alors nous, jusqu'à maintenant, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on avait initié un bulletin de soutien pour, parce que du coup, c'est que des professionnels agricoles qui peuvent adhérer au syndicat et être syndiqués. Mais par ce biais-là, puisqu'il y avait une demande, on avait donc des bulletins de soutien. Donc ça permettait d'avoir un soutien financier et en même temps une liste de contacts. Mais ces personnes-là ne se connaissent pas entre elles et ne sont pas structurées ou organisées. Donc il y a un échange assez simple, déjà assez sympa aussi. C'est voilà, en échange d'une cotisation, on a une adresse mail et puis on renvoie des informations régulières, décryptage de l'actualité agricole et puis des infos sur des projections, des salons à la ferme ou des spectacles, des animations. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, de reprendre un peu la structure nationale des Amis de la Conf et que ces gens-là, ces amis, s'organisent dans une structure qui serait partenaire et sœur de la Confédération Paysanne, mais qui puisse faire, qui se connaissent et qui s'organisent de leur côté.
Et là, n'importe qui peut adhérer. À partir du moment où il a envie de soutenir les valeurs de la Confédération Paysanne. Alors, il y a un groupe qui existe, un collectif qui existe dans le 05 et qui est assez actif et donc qui nous aide à préparer justement ce collectif 04. Voilà.
Donc pour l'instant, on continue à collecter et donc vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Il y a un site internet d'ailleurs qui est tout récent pour obtenir des bulletins d'adhésion de soutien puisque la structure n'est pas encore en route. Et puis à un moment donné, quand la structure, l'association des Amis de la Conf 04 sera construite, on proposera un basculement sur une adhésion, une vraie adhésion à l'association des Amis de la Conf 04.
Donc vous parlez du site tout récent, c'est quoi le nom du site?
Bonne question. Là, je mettrai en lien.
Confédération Paysanne 04.
Je vous posais la question tout à l'heure hors micro par rapport au Salon de l'agriculture. Vous participez, vous allez sur Paris aussi?
Oui, du coup, on a un stand comme traditionnellement, enfin depuis je ne sais pas combien de temps. Alors bon, là, il faut avouer que... Avec les fins de non-recevoir qu'on a eues suite aux différentes crises, notamment la DNC, mais aussi un peu tout le reste, et des réponses qui sont à l'opposé de la logique, ou en tout cas de ce que nous proposons. On a décidé de boycotter symboliquement l'inauguration officielle du salon. Par contre, on tient un stand quand même. Alors, c'est pas tant pour aller se montrer. Mais c'est plus parce que c'est un lieu où il y a, c'est un lieu de rendez-vous institutionnel et professionnel, puisque sur le même endroit, pendant la même période, il y a toutes sortes de personnes et d'associations et de représentants institutionnels qu'on peut rencontrer, et on peut avancer et faire des rendez-vous beaucoup plus facilement. Rendez-vous officiel ou parfois, ça permet de travailler aussi entre les lignes, de rencontrer des gens. Donc voilà, tout au long de la semaine, tout le monde, enfin tous ceux qui s'y rendent, paysans ou non, sont invités à venir nous rencontrer sur le stand. Alors j'ai pas le hall, mais c'est le hall institutionnel. Ne serait-ce que pour venir prendre des informations et puis prendre aussi le programme, parce qu'il y a parfois des opérations publiques, des tables rondes ou des choses comme ça pour faire un éclairage sur des sujets, que ce soit la PAC ou... Là, moi, lundi, j'y monte pour la commission cheval, pour notamment travailler sur le statut du cheval qui est régulièrement remis en cause, parce qu'ils veulent... Il y a des propositions de loi pour le transformer en animal de compagnie, ce qui ne serait pas sans poser de problème pour les éleveurs.
Parce que vous êtes aussi éleveur...
Moi, je suis éleveur équin, ouais, mmh. entre autres, maraîcher et éleveur équin, mmh. et investi dans certaines commissions nationales. Après, il y a aussi des interventions, alors je crois que ce sera jeudi, sur la PAC, l'actuelle et la future politique agricole commune qui est en travail en ce moment entre l'Europe et les pays pour la programmation qui devrait commencer en 2028. Donc il y a des gros enjeux là-dessus, et puis voilà, bon, sur pas mal de sujets.
Bien. Alors, de quoi vous avez envie de nous... parler.
Il y a une actualité aussi là actuellement qui sont les municipales.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que c'est compliqué à appréhender parce que 36 000 communes. Alors je sais plus, on a eu le chiffre hier des communes dans le 04, mais il y a énormément de communes, et si on multiplie par deux ou trois listes par commune, pour nous c'est compliqué d'aller à la rencontre de tous les candidats. Ça n'empêche que la dimension municipale et intercommunalité aussi, voire plus, c'est un enjeu de taille pour le monde agricole, puisque déjà c'est l'échelon, le mandat qui est le plus proche de nos fermes et de nos paysans et de nos paysannes. Alors, pas forcément qu'ils aient un grand rayon d'action, puisque depuis plusieurs années, on a enlevé des financements et des compétences aux municipalités, aux communes, pour les transférer à l'agglo ou à la région. Mais ça n'empêche que ce sera les maires qui vont siéger dans l'agglomération. Donc il y a vraiment des enjeux sur lesquels on souhaite les interpeller. Alors, à travers des émissions comme aujourd'hui ou des conférences de presse comme hier... Donc concrètement, le foncier, les terres agricoles, que ce soit à travers la préservation et d'essayer d'éviter au maximum de bétoniser ou de transformer des terres agricoles en d'autres utilisations, c'est vraiment un enjeu important. On sait que c'est principalement les maires ruraux qui ont été contre le zéro artificialisation net. Et on le comprend pourquoi, parce que en fait, les grosses cités urbaines ont gardé la part du lion sur le pourcentage qu'ils pouvaient encore artificialiser. Et du coup, tout s'est reporté, toute la restriction s'est reportée sur les communes rurales. Donc bon, ça s'est tombé, le zéro artificialisation net, mais voilà, on met quand même le focus là-dessus. Et après, il y a quand même les terres agricoles qui sont maîtrisées pour partie par les communes, notamment les surfaces pastorales. Et donc là, voilà, on dit aussi que c'est important de garder un œil et de s'informer sur l'utilisation de ces surfaces et la distribution aussi, la répartition entre les éleveurs. Quand on parle de pastoralisme, il y a aussi... le problème sur les communes, problème que peut générer les moyens de défense contre la prédation, et notamment je parle des chiens de protection, ça se multiplie ou c'est monté en épingle, je ne sais pas, mais les problèmes d'agression de chiens face à des utilisateurs de la montagne. Et là, le maire, il a toute son importance pour soit faire de la médiation, soit soutenir, ou en tout cas, c'est lui le plus proche des événements. Donc là, il faut vraiment qu'il soit informé et qu'il prenne ça en compte dans leurs actions municipales. Ensuite, il y a effectivement l'alimentation. Alors, on s'adresse plutôt aux maires de grandes communes ou aux communautés d'agglo, mais c'est vrai que je crois qu'ils ont en compétence les écoles primaires. Et donc, voilà, dans la mesure de leur budget et de leur capacité technique, ils peuvent aussi essayer de réfléchir à s'alimenter de manière plus locale pour favoriser les...
Il me semble qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès par rapport à ça, non ? Dans différentes communes du département, il y a des efforts qui sont faits pour les cantines.
Oui, justement, c'est tout la poussée un peu de la société civile qui souhaiterait d'abord des restaurations collectives mieux alimentées en produits bio ou en tous les cas raisonnés. Et vraiment, oui, ça c'est clair qu'il y a... Il y a eu des avancées là-dessus. Il y a des maires qui sont pour les circuits courts, qui aident aussi les paysans locaux autant qu'ils peuvent le faire. Mais il faut qu'ils aient cette sensibilité aussi.
Mmh. Oui, mais c'est pas facile parce qu'on hérite d'une histoire. Et du coup, sur le 04, on sait qu'il y a des opérateurs semi-institutionnels, donc le Cuiseur Central, je crois. Et du coup, lorsqu'on est lancé là-dedans, c'est difficile de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et puis qu'il y a aussi un effet ciseau au niveau des financements. On ne peut pas non plus... les budgets sont limités. Et puis après, il y a aussi... si on veut cuisiner soi-même, il faut du temps, des compétences et des locaux adaptés, notamment adaptés aux normes d'hygiène, etc., avec pas mal de matières premières qui doivent emprunter un cheminement pour pouvoir être homologués. Et du coup, là, on peut rebondir aussi sur l'effet ou l'impact que peuvent avoir les communes ou les intercommunalités sur le paysage, les petites filières. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'outils de transformation, puisque nous, on produit des produits bruts, que ce soit des légumes, des animaux vivants ou des choses comme ça. Donc, on a tous en tête l'abattoir de Digne, qui est géré par l'agglomération de Digne, je ne me souviens plus son nom, la P2A. Mm-hmm. Mais après, puis il y a aussi donc, une légumerie, je crois, sur le bassin de Manosque, au Fort-Calquier, qui est en route. Donc voilà, c'est des outils qui sont structurants et qui permettent de multiplier ou d'apporter de la valeur ajoutée aux producteurs locaux et de faciliter cet écoulement local aussi. Et on a bien sûr en tête les marchés de plein vent ou les magasins de producteurs, mais il ne faut pas négliger justement les éléments qui viennent s'intercaler entre la consommation finale et le producteur.
On peut peut-être penser à ce magasin de producteurs qui va ouvrir ses portes normalement le 1er avril ou par là.
Oui, c'est ça.
À Digne, ça fait partie d'un beau projet aussi, de réunir un marché de producteurs en plus du marché en plein air.
Oui, l'idée, c'est d'offrir un choix dans un lieu différent. Parce que c'est pour ça que la zone commerciale de Saint-Christophe a été choisie. C'était pour pas faire concurrence au marché de plein vent. D'ailleurs, il y a pas mal de producteurs qui seront sur les deux sites.
Oui.
Mais du coup, on a une clientèle différente. Et du coup, ça permet à la clientèle aussi de choisir son achalandage, c'est-à-dire de pouvoir aller vers les producteurs. Parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas le choix, ils vont aller vers des filières longues et des magasins de revente. Ce qui n'est pas en soi un mal, mais au niveau de l'organisation générale de la société, c'est quand même mieux. Et puis, il y a aussi... Donc là, voilà, je participe, mais en tant qu'apporteur. Donc j'ai pas, je suis de loin l'histoire, mais voilà, je ne sais pas trop quel est l'impact de la... quelles sont les interactions, on va dire, avec la commune et les intercommunalités. Mais par contre, sur le marché de plein vent, qui sont importants dans le département, il y a aussi un travail à faire, puisque ça, c'est de la compétence des maires, enfin des communes. Donc les règlements, les manières de fonctionner, comment on intègre les producteurs dedans. Donc ça, c'est vraiment... Alors bon, ça, c'est de la responsabilité des producteurs de s'organiser entre eux, mais c'est aussi de la responsabilité des maires de réfléchir à comment on peut intégrer des acteurs de leur territoire restreint ou élargi, c'est-à-dire de leur commune ou plus large, pour faire vivre leur marché de plein vent, qui sont un accès à l'alimentation qui est important pour la population.
C'est vrai que ça manquait un peu sur Digne. Par exemple, sur Sisteron, juste à côté de Super U, il y a une structure qui fonctionne très très bien comme ça. Donc il n'y a pas d'intermédiaire du coup. C'est carrément les paysans qui vendent leur propre production. Et ça, c'est vraiment important. Il faut que ça se développe. Mmh. Autrefois, on avait les casinos, les petites structures. C'est vrai. Mais je crois que ça existe encore, même au Japon, où les grosses structures ne sont pas acceptées, tolérées.
Ah oui.
Donc en fait, je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et cette proximité, il y a aussi le côté social qui rentre en jeu. C'est pas juste un magasin, tac, et hop, code barre, etc. Enfin, voilà, c'est une autre dimension qui est sociale qui est vraiment importante aussi à développer. Et c'est super qu'il y ait ce magasin qui se crée à Digne. Après, sur l'impact des communes et des maires, notamment, il y a un autre sujet qui est celui du photovoltaïque. Parce que les fournisseurs d'énergie cherchent toujours à faire plus de profits et les maires sont démarchés de manière incroyable. Et certains sont demandeurs d'ailleurs, parce qu'ils se disent ça va faire une manne. Donc pour essayer d'aller artificialiser encore des sols importants et cultivés encore, ou même des zones qui sont plus cultivées mais qui pourraient l'être. Et donc, il se dit, tiens, c'est super, je pourrais mettre 30 hectares par ici de photovoltaïque. Et heureusement, il y a quand même des garde-fous. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est quand même très important et que les maires doivent gérer.
Bah, sur les toits, ça ne suffit pas.
on est bien d'accord. Mais dans la commission qui s'occupe de ça au niveau départemental, on a, par exemple, demain, il y a une commission, comme tous les mois. Et là, d'ailleurs, il va y avoir une deuxième parce que on a de plus en plus de dossiers de construction de hangars agricoles. Bon, là, OK, la plupart du temps, c'est plutôt positif. Ça évite justement d'aller sur des parcs photovoltaïques qui sont une calamité, en fait, globalement.
Après, le problème des... Là, si on est spécifiquement sur le photovoltaïque, on a beaucoup de toits encore qui ne sont pas couverts, et même des grandes surfaces. On peut penser aux supermarchés, etc. Et là, le problème, c'est le dimensionnement économique. C'est-à-dire que pour que ce soit rentable, parce que c'est des opérateurs, c'est pas des philanthropes, et donc eux, pour que ce soit rentable, même quand bien même il y a un prix garanti derrière de l'énergie, il faut une certaine surface et une certaine facilité d'installation. Si on veut mettre des panneaux solaires au-dessus d'un supermarché, il faut faire une superstructure au-dessus, puisque le supermarché n'est pas prévu, enfin la structure n'est pas prévue pour supporter ce poids-là. Et il y a aussi des problèmes d'assurance, puisqu'il y a des problèmes, enfin, il y a quand même de la circulation électrique et des transformateurs. Et donc, tout ça, c'est des choses qui font que les opérateurs vont plutôt se reporter sur des terres agricoles à travers de l'agrivoltaïsme ou des terres agricoles naturelles à travers du photovoltaïque au sol. Donc là, il n'y aura pas d'autres utilisations. Parce que c'est plus facile, c'est le même réflexe que justement les constructions de zones commerciales qui se sont faites sur les meilleures terres maraîchères aux alentours des villes. Pourquoi ? Parce que c'était le plus facile pour installer et le moins cher. Donc on est toujours sur un... Pour ça, tout à l'heure, pour le salon à la ferme, je disais qu'il faut parfois faire un pas de côté pour changer de perspective, parce que là, on est toujours dans une perspective de compétitivité économique. Et si on change un peu le paradigme, simplement on changerait le niveau de rémunération de l'électricité photovoltaïque en fonction des surfaces, et on pourrait installer sur le même principe, c'est-à-dire installation gratuite sur des toits de particuliers. Du coup, on pourrait quand même augmenter la production d'énergie renouvelable sans bousiller un peu tout ce qui est autour. Après, il y a un dernier aspect, je ne sais pas si c'est le dernier, mais il y en a un aussi qui impacte plus qu'autre chose les communes, c'est la qualité de l'eau. On sait qu'il y a de plus en plus de sources qui posent problème vis-à-vis des résidus, soit d'azote, soit de pesticides. Et ça, c'est quand même bien le résultat de ce qui était pendu sur les surfaces de captage, et pas uniquement la zone de captage, je le dis, parce que ça, c'est quand même assez restreint, alors qu'on sait très bien que la circulation de l'eau, elle est difficilement connue, et notamment, on est dans une réserve géologique, donc les inversements de couches et la circulation de l'eau, elle est extrêmement difficile à connaître ici. Et donc, c'est aussi un aspect, alors là, c'est pas tranchant, mais ça peut être une orientation que peut donner la commune et des incitations vis-à-vis des paysans et des paysannes qui sont sur leur territoire, sans stigmatiser, parce que quand bien même encore de nombreux exploitants utilisent des pesticides, c'est bien souvent parce qu'ils y sont contraints par le marché. On revient sur le fameux paradigme économique, c'est que s'ils ne sont pas payés au niveau qu'il faut, ils sont obligés d'augmenter les volumes et de protéger contre les ravageurs.
C'est toujours compliqué de trouver un équilibre.
Donc voilà, du coup, c'est vrai que ce salon à la ferme va permettre dans les débats qu'il y aura dans les spectacles, après les spectacles. Donc ce sera un moment de discussion avec justement non seulement les paysans, mais enfin toutes les personnes qui seront là, présentes. Et ça peut être aussi toujours pareil, de l'information, de la compréhension de ce qui se passe véritablement. Aujourd'hui, il y a vraiment des choses à changer, quoi. Donc il faut qu'on se batte là-dessus.
Bon, dernier petit appel, c'est que du coup, on le sait, enfin, on le sent déjà dans l'espace médiatique, nos chers sénateurs. Alors bon, on n'en a qu'un seul dans le département, mais ils sont en campagne. Parce que, alors c'est complètement lié, puisque les sénateurs sont élus par les élus. Donc, et le plus grand nombre d'élus en France, ben, c'est les maires et les conseillers municipaux. Je ne sais pas si les conseillers municipaux y votent. Et donc du coup, voilà, une grande attention aux futurs élus, à pour qui ils vont voter. Puisque, voilà, on sait très bien que la loi Duplon, qui fait tant de remous et qui risque de faire tant de ravages, c'est un sénateur qui l'a posé. Et que les lois font l'aller-retour, bien souvent, enfin, sont obligées entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc c'est pas rien. Alors même si ça reste, c'est un renouvellement par tiers, je crois, donc on n'aura pas un changement de paradigme du jour au lendemain, mais c'est quand même pas rien. Donc un appel aux électeurs pour bien choisir leur maire, et ensuite un appel aux élus pour bien choisir leur sénateur.
Merci.
Voilà, voilà. Merci en tous les cas à chaque fois de nous recevoir si gentiment. Et là, un peu au pied levé, là aussi, mais c'était
C'est bien de faire le pas aussi pour vous jusqu'à notre studio, en plus avec un bon petit déj que vous avez apporté, des bons produits du marché.
Ah ben oui, là on n'hésite pas.
Voilà, on est bien lotis ici. Merci beaucoup et à bientôt pour
ah ben oui, très prochainement.
D'autres bonnes nouvelles j'espère. Ouais.
Après les municipales,
voilà.
On aura des choses à dire.
Allez, au revoir.
Bonne journée, merci.
J'avais un nom, une histoire, un regard. Ce n'étaient pas des chiffres alignés au hasard. Ils les ont vus partir sans pouvoir leur parler. Des cœurs qui se déchirent sans même pouvoir pleurer. Soutenons les agriculteurs, à ceux qui nous donnent à manger, et dénonçons tous ces voleurs, tous ceux qui veulent tuer le métier. L'amour donné aux des vaches.